Alors, le titre général, c'est catholicité. Je suis de ceux qui revendiquent le titre et le nom, donc, de catholique. Et quand je parle des autres catholiques, appelés habituellement catholiques, je dis toujours catholique romain. Il y a les catholiques romains, mais il n'y a pas seulement les catholiques romains, il y a des catholiques réformés. Et pourquoi? Parce que le mot catholique, souvent, par exemple, dans le credo, on traduit, la Sainte Église universelle. C'est très mauvais. C'est très mauvais comme traduction, et c'est faux. Le mot catholique n'a jamais voulu vraiment signifier universel. Le mot catholique vient de deux mots grecs, le mot kat, kata, qui veut dire selon, et holos, qui veut dire le tout. Et le premier sens, le sens fondamental, c'est être chrétien selon le tout de la révélation. Par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, vous avez celui d'Athanase, vous avez sans doute déjà entendu parler d'Athanase, qui a vécu au IVe siècle, et qui a été vraiment, on peut dire, le champion des grands dogmes trinitaires et christologiques. Et Athanase était le théologien catholique, alors que l'Église universelle était arienne. Presque tous les évêques et toutes les églises à l'époque d'Athanase étaient ariennes, c'est-à-dire rejetaient la divinité de Jésus-Christ. Et Athanase était seul, et c'est lui qui était catholique. Et c'était tous les autres, les universels, si je puis dire, qui n'étaient pas catholiques. Et pourquoi ? Parce qu'Athanase maintenait la fidélité au tout de la révélation. Il voulait être un chrétien selon le tout de la révélation. Ça, c'est le premier sens. Et puis, le second sens, qui découle d'ailleurs du premier, puisque Dieu est le Seigneur et se révèle comme tel dans sa parole, tous les domaines de l'existence dépendent de sa seigneurie, dépendent de sa parole. Et donc, un autre sens, c'est que toute la révélation doit être appliquée au tout de l'existence. C'est-à-dire que Dieu réclame notre fidélité, non seulement dans l'ordre personnel et ecclésial, mais dans tous les ordres de la vie, dans l'ordre scientifique, dans l'ordre philosophique, dans l'ordre politique, dans l'ordre artistique, etc. Autrement dit, le second sens du mot catholique, c'est que l'autorité de Dieu et de sa parole s'exerce sur le tout de la création, sur le tout de l'existence. Alors, c'est pourquoi je crois qu'il est bon de souligner le mot catholicité que j'ai employé volontairement. La catholicité de la loi de Dieu, c'est important, et je voudrais que nous soyons dans notre vie de fidèles catholiques, c'est-à-dire que nous voulions être toujours fidèles au tout de la révélation dans la totalité de notre existence. Voilà, ça c'est le grand sens. Et si nous ne sommes qu'une poignée, comme Athanase, vous savez, le surnom d'Athanase, on l'appelait Solus contra Mundum, seul contre le monde entier. Solus contra Mundum. Et bien, il était catholique. Alors, je dirais, l'universel était contre lui, il était seul à ce moment-là, et puis n'empêche que par la grâce de Dieu et par l'efficace de son Saint-Esprit, c'est finalement la foi d'Athanase, la foi véritablement catholique, qui l'a emporté, et dans les grands conciles de Nicée, de Constantinople, et bien finalement, les Ariens ont été peu à peu effacés de la carte, parce que dans l'histoire de l'Église, vous savez, il y a des moments de progrès dans la fidélité et il y a des moments de régression. Nous pouvons dire qu'en ce moment, nous sommes hélas dans un moment de régression dans l'histoire de l'Église, mais je dirais cette régression n'est que temporaire, et de même qu'il y a eu un triomphe de la foi catholique après l'apparent triomphe de l'arianisme, eh bien, il y aura aussi un triomphe de l'Église catholique, au plein sens du mot, après ce temps de désordre, ce temps de déviation, ce temps de mort spirituelle à bien des égards dans lequel nous sommes. Dieu nous fait la grâce de vivre en un temps comme ça, nous ne choisissons pas de vivre dans un temps de progrès ou dans un temps de régression. Bah, Dieu nous fait la grâce de vivre dans un temps de régression. Et les pentes de notre époque sont contre nous, mais comme disait l'autre, les pentes sont faites pour qu'on les remonte. Alors maintenant, nous allons aborder successivement les quatre points de ce cours. Et tout d'abord, nous allons voir, c'est la première chose à voir, l'Écriture sainte, qui est le livre de la loi et qui est le livre de l'Alliance, se présente à nous comme étant ensemble évangile et loi. Évangile. Tout d'abord, vous savez qu'il y a une partie de l'Écriture sainte qui est désignée par l'Écriture elle-même comme livre de l'Alliance. Ce sont les chapitres 21 à 23 du livre de l'Exode. Et dire que l'Écriture sainte est le livre de l'Alliance, c'est dire que non seulement ces chapitres du livre de l'Exode sont le livre de l'Alliance, mais je dirais que ce livre de l'Alliance a couru, s'est développé. C'est vrai que le livre de l'Alliance, au départ, c'était quelques chapitres du livre de l'Exode. Mais peu à peu, ces quelques chapitres se sont amplifiés et finalement, la loi entendue là, comme Torah, comme Ancien Testament, vous savez que il y a un nom tiré de l'hébreu pour désigner l'Ancien Testament, c'est le mot Tanakh. Tanakh, T-A-N-A-Q, et Tanakh, ça veut dire Torah, la Torah, les Nebiim, les prophètes, et les Ketubim. Alors, ça fait T, N, K, et j'ai dit Q, c'est K, T, N, K, et Tanakh, ça veut dire l'ensemble de ces trois parties de l'Écriture sainte, que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs pas bon de dire l'Ancien Testament, tout d'abord parce que, au fond, ça n'a jamais été un nom par lequel ces livres se sont désignés. Je dirais, c'est quand il est question dans le Nouveau Testament, il n'est pas question d'Ancien Testament, mais d'Ancienne Alliance. D'ailleurs, c'est très curieux parce que pour le Nouveau Testament, on dit Ekaïne Diateke, la Nouvelle Alliance. Et alors, il y a une sorte de déviation qui fait que, au lieu de dire, comme il serait normal, la Nouvelle Alliance, on a fini par dire le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. C'est pas juste. Je pense qu'on devrait avoir quatre parties de la Bible, la Torah, les prophètes, les écrits et la tradition apostolique. La tradition apostolique étant ce que nous appelons le Nouveau Testament. Mais ces quatre parties de la Bible sont indissolubles. Et le malheur, c'est qu'en parlant d'Ancien Testament et Nouveau Testament, surtout avec nos concepts modernes, qui dit ancien dit ce qu'il faut envoyer promener, pour ne garder que ce qui est nouveau, alors il y a une espèce de dépréciation redoutable de l'Ancien Testament. Et cette dépréciation redoutable de l'Ancien Testament remonte à l'Antiquité et à un bonhomme dont vous avez peut-être entendu parler, qui a eu une influence néfaste sur l'histoire du christianisme et qui s'appelait Marcion. Marcion, n'est-ce pas, il y allait carrément, il rejetait l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament nous présentait un Dieu soi-disant créateur qui en réalité n'avait rien à voir avec le Dieu sauveur du Nouveau Testament, c'était le Dieu de la loi et pas le Dieu de la grâce, et alors finalement non seulement il rejetait l'Ancien Testament, il s'est vite aperçu qu'il allait être obligé de rejeter la plupart du Nouveau Testament. Alors il a gardé une partie partie des épîtres pauliniennes, il a gardé une partie de l'évangile de Luc, et finalement, la Bible se réduisait pour Marcion aux épîtres pauliniennes revues et corrigées, et à l'évangile de Luc revu et corrigé, et puis tout le reste, il l'envoyait promener, il l'envoyait balader. Eh bien, au fond, le marcionisme n'a pas cessé d'agir sur les chrétiens. Et c'est une des raisons pour lesquelles je regrette profondément qu'on parle d'Ancien et de Nouveau Testament. J'accepte bien sûr, puisque le Nouveau Testament parle, qu'on parle d'Ancienne et de Nouvelle Alliance, mais l'Ancien Testament, c'est redoutable. D'autant plus que les premiers chrétiens, et en particulier les chrétiens du temps apostolique, c'est-à-dire les chrétiens des années 30 à 70, avaient comme seule écriture sainte, au départ, l'Ancien Testament. Et pour eux, faisait autorité. D'ailleurs, pour Jésus, il faisait autorité. Quand Jésus disait, il est écrit, n'avez-vous pas entendu que, etc., il citait, comme parole de Dieu, l'Ancien Testament. Et dans toutes ses parties, aussi bien dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Koutoubim, il citait ça. Alors, il nous faut lutter, je vous y convie, il faut lutter contre cette espèce de dépréciation de l'Ancien Testament. Parce que déprécier l'Ancien Testament, finalement, c'est déprécier le Nouveau, comme d'ailleurs Marcion s'en est vite rendu compte lui-même, et c'est ne garder qu'une partie du Nouveau. Alors il y a des oppositions, le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu jaloux, un Dieu terrible, un Dieu qui se met en colère, un Dieu de vengeance, etc. Tandis que le Nouveau Testament, le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu de douceur, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de... C'est absolument faux. On pourrait faire une anthologie de tous les textes du Nouveau Testament qui nous présentent un Dieu de vengeance, de colère, et dans les paroles même de Jésus, on trouverait des paroles plus terribles quelquefois que les paroles des prophètes. Et c'est faux. Mais alors, voyez, antinomie, Ancien Testament, Nouveau Testament, antinomie, loi, évangile, antinomie, Dieu de vengeance et Dieu d'amour, antinomie, voilà. Et c'est terrible. C'est terrible parce que nous sommes imprégnés de marcionisme depuis presque les origines du christianisme. Et les protestants... cite par exemple, sorti de son contexte d'ailleurs, une parole de saint Paul comme « Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce hein, », sans essayer de voir ce que ça veut dire. « Nous ne sommes plus sous la loi, sous la grâce », on n'est plus sous l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau. On n'est plus... Vous savez, un petit peu, c'est très moderne ça, dans le moderne. D'ailleurs la modernité, elle remonte déjà au XVIIIe siècle, hein, c'est une modernité qui est déjà un peu réacte. Mais si vous voulez, c'est comme ça. On rejette au nom du nouveau ce qui est ancien et on oppose le nouveau à l'ancien. Tandis que l'Écriture sainte se présente à nous dans une homogénéité, dans une unité. Et en particulier, et c'est le point que je souligne là rapidement, il y a une entité profonde qui est évangile, loi. Si vous relisez les nœuds de l'histoire biblique, les nœuds, je vais dire ce qui est marqué par Adam, par Noé, par Moïse, par David, par Jésus-Christ, si vous regardez, vous voyez que chaque fois, à ces nœuds historiques de la révélation, et donc de l'histoire biblique, et donc de l'histoire de l'Alliance, vous trouvez conjointement, ensemble, évangile et loi. Ça va ensemble, ça, c'est inséparable. Il y a d'ailleurs un mot technique de la rhétorique, le mot « endiadys », H-E-N-D-I-A-D-Y-S. Qu'est-ce que c'est qu'Endiadys ? C'est une figure de rhétorique qui coordonne deux noms et donc aussi deux réalités. Par exemple, quand il nous est dit en dans l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité, c'est une expression, un diadis, c'est-à-dire ça va ensemble. La grâce et la vérité, c'est pas la grâce et qui serait une chose et puis la vérité, non, c'est la grâce et la vérité, ça va ensemble, ça va ensemble. Et d'ailleurs, dans tout au long de l'Ancien Testament, il suffit de prendre une concordance, vous pourrez le vérifier, la grâce et la vérité, vous retrouverez ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve la grâce et la vérité dans l'Ancien Testament. Je veux dire, ça prouve que la parole de Jésus qui se trouve dans Jean 1, 17, il faut bien la comprendre. La loi a été donnée par Moïse. Ici, la loi, ça veut dire, c'est Moïse qui nous décrit tous les sacrements, toutes les figures, tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Mais si, en ce sens, il y a tout un ensemble mosaïque qui nous a été transmis par Moïse, Jésus, lui, vient parachever, conclure par sa grâce et sa vérité tout l'enseignement de Moïse. Si bien qu'il n'y a pas du tout une opposition entre la loi d'une part et la grâce et la vérité de chose, mais il y a tout dans la loi de Moïse, il y a tout un ensemble typologique, tout un ensemble préfiguratif, tout un ensemble, par exemple, de sacrifices qui pointent vers le sacrifice unique de Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ et ce Jésus-Christ qui est la grâce et la vérité, en tant que seconde personne de la Trinité, en tant que Fils éternel de Dieu, il agit déjà avec sa grâce et sa vérité dans l'ancienne alliance. Et donc, la grâce et la vérité sont une indiadis, comme est une indiadis l'évangile et la loi. Vous ne trouvez nulle part dans les noyaux dont je vous ai parlé, hein, en énumérant Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, eh bien, vous trouverez toujours, en même temps, ce qui est bonne nouvelle, ce qui est bénédiction, ce qui est donc évangile, et puis ce qui est commandement, ce qui est loi. Et ça, dès le temps d'Adam, dès le temps d'Adam, et même dans le temps d'Adam avant la chute. C'est-à-dire qu'avant la chute, quelquefois, il y a des théologiens qui ont cru bon de parler d'une alliance des œuvres. C'est terrible. Comme si Adam n'avait pas été appelé à vivre de foi, d'espérance et d'amour. Comme si Adam ne devait pas vivre en reconnaissant que Dieu était son Seigneur et qu'il ne vivait que par la bonté de ce Seigneur. Avant la chute, Adam connaît déjà, a reçu déjà évangile et loi. À savoir, il a reçu à la fois des promesses de Dieu, des bénédictions de Dieu, et il a reçu des commandements de Dieu, des ordres de Dieu. Et au fond, tout le problème pour l'homme, dès avant la chute, et encore plus après la chute, pareillement après la chute, le problème de l'homme, c'est de recevoir ensemble ses promesses et ses commandements, cet évangile et cette loi, et d'être fidèle par la foi, par l'espérance et par l'amour à cela. Alors, parler des alliances, d'une alliance des œuvres, ce serait faire à la limite d'Adam, une espèce de pélagien avant la lettre, ou une espèce de pharisien avant la lettre, qui aurait à mériter par ses œuvres. La première chose, c'était pour Adam d'être reconnaissant envers Dieu, de l'avoir créé dès la création d'Adam. Donc, dès avant la chute, Adam se trouve dans l'alliance de Dieu avec son évangile et sa loi. Alors, bien sûr, l'évangile et la loi se développent aussi tout au long de l'Écriture, mais se développent d'une certaine façon homogène. Il y a une espèce de croissance, de même qu'une plante commence à être seulement une semence, et puis petit à petit cette semence va croître et petit à petit se développer et être finalement comme un arbre parfois immense. Et bien de même, la révélation de Dieu, elle est déjà avec l'Évangile et la loi en germe dès la création de l'homme. Et il va y avoir un développement de cela, de l'Évangile et de la loi. Et dans ce couple Évangile-loi, c'est encore l'Évangile qui a la priorité. De même avec Moïse, par exemple, le décalogue va être donné, mais le décalogue commence par la bonne nouvelle. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai retiré d'Égypte, de la maison de servitude. Autrement dit, je suis le Dieu qui t'a sauvé. Et puisque je suis le Dieu qui t'a sauvé, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Donc, les commandements découlent de l'Évangile, ou plutôt il y a un ensemble inséparable, indiadis, Évangile-loi, comme nous verrions en creusant les textes, qu'il y a un couple tout au long de l'Écriture sainte, grâce et vérité. Voilà ce que je voulais dire pour ma partie A. La partie B, les divergences bibliques du mot loi. Un des problèmes de l'exégèse, c'est que souvent le mot loi dans l'écriture désigne des choses non seulement diverses, mais parfois même opposées. Je prends un exemple. Dans les épîtres pauliniennes, et en particulier dans les grandes épîtres aux Romains et aux Galates, Paul s'oppose à la loi et se montre adversaire de la loi. Alors, ça paraît non seulement paradoxal, mais contradictoire avec ce que Paul dit par ailleurs quand il dit que la loi est sainte, juste et bonne, et quand il dit est-ce que la foi viendrait en opposition à la loi, non, au contraire, la loi est confirmée par la foi. Bon. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot loi lorsque Paul prend ce mot en mauvaise part? Alors, réfléchissons un peu sur la question. Paul est un homme qui, pour simplifier quelquefois, résume dans un mot tout un ensemble. Et là, quand il s'oppose à la loi, il s'oppose à la loi telle que l'enseignent et la vivent les pharisiens, la loi telle que la perçoivent et l'appliquent les juifs. Ah. Alors, au lieu de dire la loi telle que les pharisiens, la loi telle que les juifs, il dit tout simplement la loi. Mais on ne peut pas confondre la loi entendue en ce sens-là avec la loi, comme lorsque Paul dit la loi est sainte, juste et bonne, ou lorsqu'il dit que la loi est confirmée par la foi. Donc, il faut faire attention, parce que lorsque Paul, par exemple, dit « Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce », il veut dire une chose qui précise « Nous ne sommes plus », alors là c'est un troisième sens du mouvement, « Nous ne sommes plus sous la loi de condamnation, sous la loi qui nous juge, sur la loi qui justement, d'ailleurs, nous jugeant, nous condamne, mais nous sommes sous la grâce de Dieu ». Et Paul ajouterait, et il le fait à d'autres occasions, et cette grâce de Dieu nous permet d'avancer et de croître dans l'obéissance à la loi, entendue non plus, nous y reviendrons tout à l'heure, comme loi de justification, mais comme loi de sanctification. Alors, il y a là un problème. Un problème, parce que si l'on ne fait pas attention à la diversité biblique de sens du mot « loi », on risque de se trouver devant une incompréhension totale du texte. Il faut dire que, dans les cercles rabbiniques, l'alliance était précisément devenue pour eux une alliance des œuvres. dans laquelle, en quelque sorte, il fallait mériter le salut. Avant-hier, dimanche, j'ai écouté, comme je le fais assez souvent le dimanche, de 9h30 à 10h, l'émission israélite qui est dirigée par le rabbin Eisenberg. J'ai été très frappé, parce que parlant de la loi, le rabbin Eisenberg et le rabbin qui parlait avec lui, avec lequel il s'entretenait, tous les deux ont employé à je ne sais combien de reprises le mot mérite. Et disant, il faut que l'homme mérite, il faut que l'homme, etc. Il revenait tout le temps ce mot mérite. Alors, ça m'a intéressé parce que j'avais déjà préparé mon cours pour vous, et je me disais, mais c'est toujours ce qui est enseigné par les rabbins, les cercles rabbiniques. Aujourd'hui, en tout cas, le cercle rabbinique qui se charge de cette émission israélite tous les dimanches, fait exactement ce que saint Paul, après Jésus d'ailleurs, parce que Jésus l'avait fait avant lui, attaque, que je dis après Jésus, mais aussi après les prophètes. Parce qu'au fond, tout au long de l'Ancien Testament, il y a cette fausse idée des Juifs qui pensent que la loi leur est donnée comme moyen de mériter, comme moyen de salut. Et les prophètes attaquent cela. Et non seulement les prophètes ont attaqué cela, mais déjà la Torah elle-même, je veux dire l'enseignement mosaïque, attaque cela. Attaque cela. Vous avez dès le début une attaque de cette conception. Je prends comme exemple, si vous voulez, au livre du Deutéronome. Vous savez que les Allemands disent toujours et disent encore, et dans leur Bible, c'est imprimé comme ça, pour la Genèse, premier livre de Moïse, pour l'Exode, deuxième livre de Moïse, etc. Donc c'est bien dans le Deutéronome, c'est-à-dire dans le cinquième livre de Moïse, nous trouvons ceci. C'est au chapitre 6, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, vous avez... non, je vois, c'est... Pardon. C'est chapitre 7, les versets 6 à 11. Alors, je lis. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le moins de tous les peuples. Mais parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, le Seigneur vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Tu reconnaîtras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance, en hébreu c'est haine, sa bienveillance, sa grâce, et garde son alliance et sa grâce jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Mais il le rend leur dû directement à ceux qui le haïssent, et il les fait périr, il ne diffère pas, etc. Bon, tu observeras donc le commandement, les prescriptions et les ordonnances que je te donne aujourd'hui pour les mettre en pratique. Voilà un texte mosaïque tiré du Deutéronome qui conjoint l'évangile, la bonne nouvelle et la loi. L'évangile et la loi vont donc ensemble. C'est un couple inséparable, le couple évangile-loi. Enfin, nous aurons peut-être l'occasion dans l'entretien de revenir là-dessus. Et j'en viens au C, à savoir évangile-loi et justification, évangile-loi et sanctification, évangile-loi et glorification. Il y a, nous venons de le voir, une unité de l'Ancien et du Nouveau Testament, disons une unité de toute l'Écriture, sur ce point. Jamais on ne peut avancer la loi comme moyen de justification. Jamais. Et ça aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. On ne peut être justifié que par grâce, par le moyen de la foi. C'est l'affirmation de ce salut par grâce par le moyen de la foi, elle se trouve dès la Genèse au sujet du patriarche Abraham. Mais elle se trouve aussi dans tous les textes de la Torah, dans tous les textes des prophètes et dans tous les textes des écrits. La loi ne peut aucunement nous être un prétexte de justification. Parce que devant le Dieu saint, la loi ne fait que révéler la justice du jugement de Dieu. Vous savez, dans la vieille confession des péchés de Théodore de Bèze, vous savez, c'est une confession des péchés qu'on ne dit presque plus jamais dans les églises, alors que dans ma jeunesse, elle était encore très souvent employée. Lorsque il y a eu le colloque de Poissy, Théodore de Bèze a été le porte-parole des protestants, et il a impressionné aussi tout le monde, tous les catholiques romains qui étaient là, étaient très impressionnés lorsque tous les protestants qui étaient là se sont mis à genoux et que Théodore de Bèze a prononcé cette prière de confession des péchés qui commence par Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans la corruption, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, et qui transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, ce qui fait que nous attirons sur nous par ton juste jugement la condamnation et la mort. Bah, vous savez, quand Théodore de Bèze a prononcé cette prière au colloque de Poissy, tout le monde était là, et les cardinaux et théologiens catholiques étaient là, ont été... Or, qu'est-ce que faisait Théodore de Bèze? Il ne faisait rien d'autre dans cette prière de confession des péchés que de ramasser ce que dit l'Écriture sainte. Devant la justice de Dieu, devant la loi de Dieu qui exprime cette justice, nous ne sommes que poudre, poussière et corruption. Et nul ne peut avancer de mérite quelconque quand il s'agit de la justification, parce que la justification, elle n'est que par grâce, par le moyen de la foi. Donc, c'est ça un point important. Et alors, Jacques, dans son épître, reprend ça en comparant la loi de Dieu à un miroir. Et il dit, quand nous nous regardons au miroir, à la parole de Dieu, ne soyons pas oublieux. Souvenons-nous du visage que nous avons vu de nous-mêmes dans le miroir de la loi de Dieu. Qu'est-ce que je suis? Un pauvre pécheur, digne de la mort éternelle, et qui ne peut avancer devant la face de Dieu aucun mérite. Impossible de se justifier par le moyen de la loi. Et c'est très important de bien voir ça. Mais en même temps, je dirais, c'est Paul qui emploie d'ailleurs l'expression, que la loi est comme semblable à la baguette du pédagogue conduisant à Christ. Vous savez que là où on dit pédagogue, on pourrait traduire le surveillant. Dans les écoles de l'Antiquité, il y a eu d'autres écoles, on a fait ça, mais vous aviez des surveillants. Et puis, il faisait avancer les élèves, quelquefois. Moi, je me souviens encore dans les petites classes, et quand l'instituteur, le professeur, frappait les mains, paf, il fallait tous se mettre en silence, dans les rangs, etc. Puis ensuite, le pédagogue qui menait vers la classe. Eh bien, la loi est un pédagogue qui mène à Christ. Attention, la loi est un pédagogue qui conduit à Christ. Mais l'homme peut être conduit, en écoutant la loi, à haïr Dieu davantage. Ou bien encore, il peut être, avec la loi, appelé à courir vers Dieu pour sa justification. Pour être justifié, je ne puis que me jeter dans les bras du Père, comme le Fils prodigue. On n'a rien à avancer, on n'a rien à prétendre, on n'a rien à réclamer, Dieu ne nous doit rien. Mais nous nous jetons dans ses bras paternels en confessant nos péchés. Voilà. Enfin, c'est la loi quant à la justification. On pourrait dire, la loi quant à la justification, zéro. c'est clair, c'est son patron. Mais la loi, quant à la sanctification, dans ma justification, donc la loi nous révèle la justice du jugement de Dieu. La justice. Mais quant à la sanctification, la loi nous révèle le caractère moral du Dieu que nous devons imiter et suivre. Elle est la règle du Seigneur pour notre sanctification. La sanctification, on pourrait dire, c'est l'application de la vie du Christ au sien par le Saint-Esprit. Jésus nous justifie parce qu'il a payé à notre place, il a été maudit à notre place, il est substitut, notre substitut devant Dieu. Mais par son Saint-Esprit, le Christ Jésus veut faire passer en nous quelque chose de sa sainteté. Autrement dit, il nous justifie sans aucun mérite de notre part, et nous sommes aussi d'ailleurs sanctifiés sans aucun mérite de notre part, mais dans sa bonté, dans sa grâce, le Christ nous applique quelque chose de sa vie. Alors, on peut parler à juste titre d'une imitation de Jésus-Christ, selon le titre d'un ouvrage médiéval célèbre. Oui, il y a une imitation de Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible va plus loin, puisqu'elle parle même d'une imitation de Dieu. Imitation de Dieu. Autrement dit, Dieu a un caractère moral, et dans la sanctification, quelque chose du caractère moral de Dieu, ou on peut dire plus concrètement, quelque chose de la vie morale de Jésus-Christ nous est appliqué. Alors, quant à notre sanctification, la loi a un rôle positif. Alors, un rôle positif, bien sûr, comme le dit le catéchisme de Heidelberg, quand nous aurons essayé d'obéir à tous les commandements de Dieu, nous ne serons... Vous voyez, ceux qui sont convertis à Dieu peuvent-ils observer parfaitement ses commandements? Non, car même les plus saints, tant qu'ils sont dans cette vie, n'ont jamais qu'un petit commencement d'obéissance. Même les plus saints, en cette vie, n'ont jamais qu'un petit commencement d'obéissance. Ils mettent cependant beaucoup d'applications à vivre, non seulement selon quelques commandements, mais selon tous les commandements de Dieu. Nous sommes tenus par la grâce et par la loi de Dieu de nous appliquer tout au long de notre vie à progresser dans la sanctification. Et puis, troisième point, quant à notre glorification. Alors là, je dirais que c'est ce que souvent on oublie. C'est que la loi, quant à la glorification, nous révèle le dessein qu'a Dieu de glorification des siens. Alors je voudrais là essayer de voir qu'est-ce que c'est que cette glorification des élus de Dieu. Le justifié, sanctifié, se trouve par l'adoption, puisqu'il est adopté comme fils, tenu de s'exercer à la domination sur le péché, bien sûr, et sur le monde. D'ailleurs, vous savez que ce commandement de dominer sur le monde est le commandement qui se trouve dès le début de la Genèse. Alors, il faudrait reprendre tous ces textes de la Genèse, nous n'avons pas le temps de le faire, enfin Dieu demande à l'homme de dominer sur la création, de nommer les créatures, de cultiver et de garder la création de Dieu. Bon, mais je dirais, il y a là une glorification, parce qu'au fond, là aussi, c'est plus le caractère moral de Dieu, Mais c'est le caractère, j'allais dire, gouvernemental, on pourrait presque dire royal de Dieu. Nous sommes tenus d'avancer aussi dans ce dessein qu'a Dieu de glorifier les siens, et donc il nous faut dominer sur le péché et dominer sur le monde. Vous savez, la grande différence qu'il y a entre un chrétien fidèle et je dirais un pseudo-chrétien, c'est que le chrétien fidèle a tous les jours à demander pardon à Dieu. Et il discernera même de plus en plus des péchés qu'il n'a pas vus. Luther disait que lutter contre les péchés grossiers et manifestes, c'est sûr, on le voit, on s'y efforce. Mais je dirais, il y a des péchés subtils. Il y a des péchés qui sont plus dangereux, quelquefois, que les péchés grossiers et manifestes. Si je mens, ben je commets un péché grossier et manifeste, et je m'en rends compte d'ailleurs. Et je peux je dois facilement confesser mes mensonges, mon mensonge. Bon. Mais c'est beaucoup plus difficile de discerner son égoïsme ou son orgueil. Et on peut être un grand pécheur par un grand orgueil, même si l'on ne commet pas ou que l'on ne commet plus, tout au moins ouvertement, de péchés grossiers et manifestes. Alors là, il y a donc un domaine, là, c'est que le péché ne doit pas dominer sur nous. Le chrétien est toujours un pécheur, mais c'est un homme pécheur dans lequel le péché ne domine plus. Le péché ne règne plus, ne domine plus. Il est là, il agit, il fait tomber parfois, mais il ne domine plus. Nous devons dominer sur le péché. C'est ça notre glorification. C'est dominer sur, mais c'est de dominer aussi, de reprendre notre domination sur le monde. Notre responsabilité vis-à-vis de toutes les formes de l'existence et de la vie en ce bas monde. Enfin, nous pourrons prolonger peut-être cela, ou tout au moins vous pourrez aussi le prolonger par votre méditation de l'Écriture. Et j'en prends à mon quatrième et dernier point, autonomie et théonomie. Vous savez, on parle quelquefois du libre arbitre ou de la liberté ou de la responsabilité de l'homme. Et quelquefois, on a accusé les réformés calvinistes de mettre de côté ou d'abaisser la liberté et la responsabilité de l'homme. C'est complètement faux. C'est complètement faux. On pourrait même soutenir au contraire que les réformés calvinistes, dans leur théologie et dans leur vie, s'ils sont fidèles à ce qu'ils professent, croient, ce sont des gens qui se savent investis d'une grande liberté et d'une grande responsabilité. Le problème n'est pas le problème liberté ou pas liberté. Parce que le problème est du côté de l'autonomie. Au fond, les adversaires de la réforme, sur ce point d'ailleurs Luther et Calvin étaient entièrement d'accord, les adversaires de la réforme, quand ils parlaient de liberté ou du libre arbitre de l'homme, parlaient d'une chose qui se situait dans un domaine où Dieu n'avait en quelque sorte rien à voir. Si vous voulez, ce serait très faux de parler de pourcentage, mais c'est simplement une figure que je vais employer. Il y a d'ailleurs un conte des frères Jérôme et Jean Tarot qui illustre mon propos. Au fond, L'idée, c'est que l'homme n'est libre que si on reconnaît que dans un certain domaine, il est maître de la situation. Alors, le domaine peut être très restreint. Disons que ce domaine peut représenter 1% de la vie de l'homme. Dieu, on veut bien la limite, Dieu sera souverain sur 99%, ou même sur 99,9% de la vie de l'homme, mais il y aurait quand même 1%, si on prend 99%, ou 0,1% dans lequel l'homme serait libre. La liberté est conçue comme un domaine à part. Disons 99%, par exemple, à Dieu, et puis quand même il y a 1% où Dieu n'a rien à voir. C'est la liberté de l'homme. Et même des évangélistes sont allés très loin dans ce sens-là. Je me souviens, vous avez tous entendu parler de Billy Graham, et Billy Graham a vu une phrase terrible un jour. J'en ai frémi en l'entendant. Il avait fait venir un certain nombre de gens, et il fait l'évangélisation par l'appel, il n'avait appel que ceux qui veulent, etc. Bon, et il y avait un certain nombre de personnes qui s'étaient approchées. Et ils étaient accompagnés souvent de gens qu'on appelait des conseillers, des volontaires, des chrétiens volontaires, qui accompagnaient donc ceux qui... le passage, la prière de confession de Théodore de Bèze, mais je respecte le sens tout à fait de ce qu'a dit. Et il dit, ben maintenant, personne ne peut rien. Nous ne pouvons plus prier pour vous, vous ne pouvez plus demander à Dieu de se substituer à vous, non, vous êtes tout seul. Et il va falloir que vous décidiez. C'est là où j'avais vu pointer la petite part arménienne de Billy Graham. Ça s'avère de dire, voilà, vous êtes arrivé à un moment où ni Dieu, ni vos prochains, ni personne ne peuvent se substituer à vous. Vous êtes tout seul à devoir prendre votre décision. Tout seul. Il va falloir que vous décidiez. C'est un moment solennel, capital, important. Voilà. C'était pour moi une expérience tragique, je vais vous dire pourquoi. C'est que finalement, les personnes qui s'étaient ainsi approchées, on leur avait demandé de laisser leur nom et leurs adresses, et selon le lieu de leur habitation, dans Paris, j'étais alors à cette époque pasteur à Paris, c'était dans les années 50, les gens devaient laisser donc leur nom et leur adresse, et alors le pasteur, ou pas forcément un pasteur, le chrétien, proche des domiciles indiqués, devait faire. Alors moi j'ai reçu au bout de 3 semaines une liste d'une vingtaine de personnes qui s'étaient donc approchées, qui avaient dû tout seul, sans Dieu, sans prochain, décidé. J'avais une vingtaine de noms. Une vingtaine, c'était 17, c'était 21, pas plus de 20. Enfin, j'en avais quand même. Et alors, j'avais écrit à cette personne en disant, voilà, on m'a signalé votre nom, j'habite votre quartier, je suis chrétien, et j'aimerais bien peut-être avoir un entretien avec vous, parce qu'on leur avait annoncé, Billy Graham, un auxiliaire Billy Graham, leur avait dit, voilà, vous allez laisser votre nom, votre adresse, et comme ça vous pourrez être joint pour que vous puissiez avoir des entretiens ultérieurs. J'ai écrit à mes 17 ou 19 ou 21, je ne me souviens plus, une vingtaine de personnes. C'est ça qui m'a frappé. Je n'ai pas reçu une seule réponse à ma lettre. C'est vrai. Et alors, c'est ça qui est tragique. Vous voyez ? C'est que, voilà des gens auxquels on demande de s'avancer. Ils s'avancent. Ensuite, on leur dit, maintenant, il va falloir que vous décidiez, tout seul. Et ensuite, il va falloir, vous laisserez votre nom, votre adresse, et puis on vous joindra pour les gens. tout ça en tout cas. Et alors quand j'ai parlé ensuite à deux ou trois qui étaient un peu dans, dont je savais qu'ils étaient comme moi, avec des noms et tout, ils m'ont fait la même réponse. Sauf peut-être un qui a dit oui, j'ai une personne qui... Voilà. Alors, l'idée terrible, c'est pas la question de liberté, c'est la question d'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Autonomie, ça veut dire qu'on est loi à soi-même. Or, il n'y a qu'une personne qui soit autonome, qui soit loi à soi-même, c'est Dieu. Et nous, nous ne sommes pas loi à nous-mêmes. Que nous soyons contre Dieu, ou que nous soyons pour Dieu, que nous soyons croyants, ou que nous soyons incroyants, nous demeurons toujours sous la loi de Dieu. La loi de Dieu. Nous ne pouvons jamais être autonomes. Si vous voulez, être homme, c'est être libre, c'est être responsable, mais ça n'est jamais être autonome. C'est-à-dire être dans une situation telle qu'on ne serait plus placé sous la seigneurie, sous la loi de Dieu. Voilà la différence. Enfin, je pense que vous saisissez la différence entre autonomie et théonomie. Nous sommes des êtres théonomes. Le diable lui-même est théonome. Le diable lui-même est théonome. D'ailleurs, nous en avons un exemple dans le livre de Job. Le diable lui-même ne peut rien faire si Dieu n'en reste le Seigneur et le juge. Rien faire. Et c'est très important ça, parce que pour notre... quand on considère la loi de Dieu est toujours là. Autrement dit, ou bien je suis fidèle à l'alliance, ou bien je suis briseur d'alliance, mais que je sois fidèle à l'alliance ou que je sois briseur d'alliance, je reste toujours sous la loi de Dieu. Avec la condamnation, le jugement, ou avec le salut et la grâce, mais je suis toujours sous la loi de Dieu. Alors vous voyez, vous avez sans doute lu, ou si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire, le De Servo Arbitrio, le traité de Luther sur le serf-arbitre. Erasme, l'humaniste, avait publié un livre qui s'appelait De Libero Arbitrio, du libre arbitre. Et justement, il présentait la liberté, la responsabilité de l'homme comme étant une liberté et une responsabilité en dehors de la loi de Dieu. Parce que si c'était pas en dehors de la loi de Dieu, alors l'homme, selon Erasme, n'est pas vraiment libre et responsable. On pourrait se dire, qu'est-ce qui fait que l'homme est libre et responsable? C'est précisément qu'il est devant Dieu. D'ailleurs, le mot responsable lui-même comporte ça quand il y en est réfléchi. Qu'est-ce que c'est qu'être responsable? C'est devoir répondre à quelqu'un. On est, la responsabilité exige la théonomie. Si j'étais autonome, si ma liberté était une liberté d'autonomie, ça veut dire que je serais placé dans une inexistence en quelque sorte. Et c'est ce qui fait que les canons de Dordrecht insistent beaucoup là-dessus. Là, il y a de liberté et de responsabilité que devant Dieu et sous la loi de Dieu. C'est-à-dire dans la théonomie. Et l'autonomie, c'est une... Je veux dire, c'est une blague. Je veux dire, l'autonomie, c'est une prétention. Un homme peut prétendre être autonome. Il peut se croire autonome. Mais ça n'existe pas. Parce que Dieu seul a l'autonomie. Et nous sommes toujours devant Dieu. Quand je pêche, je suis devant Dieu, et Dieu me condamne justement, et Dieu me reproche justement d'avoir péché. Et je dois vraiment demander à Dieu pardon d'avoir péché. Je suis devant Dieu dans ma révolte contre Dieu, comme dans mon obéissance à Dieu. L'homme est toujours devant Dieu, même s'il rejette Dieu, même s'il nie Dieu, même s'il refuse Dieu. Alors, la loi, je le rappelle, la loi n'a de portée pour nous que s'il y a justement cette théonomie reconnue. Et nous sommes appelés, l'homme est appelé à reconnaître la théonomie. Et vous avez un exemple, j'avais cité la confession de péché de Théodore de Bèze, mais si vous regardez au psaume 51, qui est le grand psaume de repentance des péchés du roi David, là, on le voit bien. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, c'est l'hébreu haine toujours, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Oui, c'est le pécheur est devant Dieu. Le justifié est devant Dieu. Tout homme est libre et responsable précisément parce qu'il est devant Dieu. Tandis que la liberté autonome, c'est une fiction. C'est une fiction. C'est une prétention. Voilà, alors si vous voulez bien, je vous donne maintenant. Voilà, il y a depuis 1976, c'est-à-dire depuis un peu moins de 20 ans, il y a eu dans des milieux réformés, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Angleterre et aux Pays-Bas, il y a un courant qui a pris justement le nom de théonomiste, un courant théonomiste. Alors, le premier volume, enfin le premier ouvrage qui a été édité à ce sujet, c'est un ouvrage de Roche Denis qui s'appelle L'institution de la loi biblique. The Institutes of Biblical Law. Et ça a paru en 1976. Alors c'est un livre qui a fait un certain bruit à l'époque. Et puis alors, il y a eu, un peu plus tard, un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Theonomy in Christian Ethics » par Bensen, qui a fait d'ailleurs un résumé de cet ouvrage quelques années plus tard sous le nom de « By this standard », par cette règle. Par cette règle. Et puis alors, il y a eu tout un ensemble de jeunes auteurs, en particulier de jeunes théologiens, des jeunes théologiens entre 30 et 40 ans, qui ont pas mal publié à ce sujet. Alors, ce qui est intéressant, la faculté de Westminster a publié d'ailleurs une appréciation. Les professeurs de Westminster de Philadelphie ont publié une appréciation réformée de ce courant. Et c'est intéressant de suivre ça. Alors, John Frame, qui est professeur au Westminster de Californie, là où enseigne maintenant Peter Jones, John Frame et Vern Poitras, qui lui est au Westminster de Philadelphie, ont dit une chose qui me paraît très juste. C'est qu'au fond, les chrétiens ont laissé tomber des parts entières de l'Ancien Testament, et en particulier des livres de la Torah, que ce soit surtout, bien sûr, le Lévitique et le Deutéronome. Et alors, et le point de vue de Frame et de Poitras, c'est ça vaut quand même la peine de relire et de commenter et d'étudier et de sonder ces textes. Et alors ils disent, en ce sens, le courant théonomiste nous aide parce qu'il nous oblige à une réflexion. Qu'est-ce que nous faisons des textes? Parce que ce qui concerne, nous verrons ça d'ailleurs dans la suite de mon cours, mais si vous voulez, en ce qui concerne les lois dites cérémonielles de l'Ancien Testament, là les choses sont assez claires, c'était des images typiques du sacrifice qu'offrirait Jésus-Christ. Si vous voulez, ça pointait vers le sacrifice de Jésus-Christ. Bon. Mais il y a d'autres lois qui ne sont pas cérémonielles. Et alors, celle-là, qu'est-ce qu'il faut en faire? Et alors, je pense, si vous voulez, que ça vaut la peine de poser la question. Bon, je ne sais pas du tout. C'est, vous avez un cours à ce sujet où Pierre Bertou vous en a parlé?
Non, on a eu un avec Christian Rouvière il y a 2 ans.
Ah, ah oui.
4 ans.
Ah d'accord, donc il y a 4 ans. Alors Christian Rouvière avait fait un cours sur le courant théonomiste.
Oui, voilà.
Et vous avez parlé de Runschdoni, de Bansen, de...
Surtout de Bansen, en fait.
Comment?
C'était surtout de Bansen.
Remarquez, c'est Bansen qui est c'est un systématicien, hein, Bansen, c'est un type dans le genre de Paul Wells. C'est un homme très rigoureux et qui... C'est pour ça que une grande partie de la critique du livre que Westminster a publié à ce sujet porte justement sur Bansen, parce que c'est le spécialiste, si je puis dire, de la question. Alors, je pense, si vous voulez, que ça vaut la peine de lire des ouvrages de Bansen. Ça vaut la peine. Alors, il y a un petit livre que je vous ai apporté aujourd'hui parce que je crois qu'il est vraiment très très important. C'est tout petit, hein, ça a 180 pages. Et ça s'appelle The Covenantal Gospel. Vous voyez ? C'est-à-dire, si on met en français, l'évangile alliantiel. Hein, l'évangile et l'alliance. Enfin, l'évangile alliantiel, c'est une traduction juste, encore que alliantiel soit un néologisme. Enfin, je crois que c'est un bon néologisme. Nous n'avons pas d'adjectif en français correspondant à alliance. Alors, on a le substantif alliance, mais alors, si on veut dire l'évangile allianciel, on est obligé de... Alors ça, c'est édité. Alors voilà, c'est un peu compliqué.
On l'a à la librairie.
Vous l'avez à la
librairie.
Alors, s'il est à la librairie, je vous conseille de l'avoir. C'est un des livres les plus excitants que j'ai lus. J'ai lu pas mal d'ouvrages Barman, j'ai lu quelques ouvrages excitants, et bien ça, c'est un des ouvrages les plus excitants que j'ai lus et qui a été publié en 90. C'est un ouvrage posthume, parce que l'auteur, qui s'appelle Van der Waal, est mort en 1980, c'est-à-dire 10 ans avant la publication de cet ouvrage. Et encore, il y a une ou deux fois, en tout cas une fois, peut-être deux, où on signale, oui, là je tombe par sur un, là, l'auteur n'a pas complété cette section. Voilà. Donc c'était un ouvrage inachevé. Mais c'est bon, vous avez des ouvrages inachevés qui sont quelquefois puissants. Je pense aux pensées de Pascal. C'est que Pascal voulait rédiger une apologie, et puis il n'a jamais rédigé son apologie, mais il avait pris beaucoup de notes, et c'est ça qu'on a publié sous les pensées. D'ailleurs, ça pose des tas de problèmes, parce que c'était des tas de notes qui étaient empilées, au fond, sans ordre. Et alors, l'édition classique en français, c'est Brunswick, qui était un professeur de l'Université de Paris, et qui a donné un certain ordre aux pensées. Mais d'autres auteurs ont proposé d'autres ordres. C'est très difficile de savoir dans quel ordre exact Pascal eut-il rédigé son apologie. Mais enfin, les pensées de Pascal, c'est un ouvrage posthume, inachevé, et qui donne beaucoup à penser. Bien ça, c'est un excellent petit livre. Oui, c'est très bref. Hein. Je crois dire, oui, je vais vous montrer à quel point je l'ai trouvé excitant. Je l'ai certainement lu depuis 1990 au moins 5 fois. Et je le relirai volontiers encore. Mais je l'ai apporté parce que je crois que c'est... Vous l'avez lu peut-être, vous?
Non, pas encore.
Ah, c'est à avoir. Moi, je serais vous si c'est un petit bouquin à avoir. Et alors, il touche, pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'il touche à la question justement de la loi. Et tout à fait indépendamment de Bentzen, je veux dire. D'ailleurs, c'est un néerlandais, c'est un hollandais. Et je crois que ça vaut la peine d'étudier la question, parce que pour beaucoup de gens, nous leur disons, la Bible est la parole de Dieu. Et puis les gens se disent, mais comment se fait-il qu'on ne prêche jamais sur tel livre. Par exemple, moi j'ai un commentaire de Calvin, c'est un des rares livres de Calvin que je possède, en fait une édition originale, et qui est de 1554. Un commentaire de Calvin sur le Deutéronome. Il a fait d'ailleurs des prédications remarquables sur le Deutéronome, Calvin. Et c'est là où je me suis dit, quelle différence entre un homme comme Calvin, qui arrivait à prêcher sur le Deutéronome en prenant toute la suite, hein, petit à petit, il a prêché sur tout le Deutéronome. Il faut dire que Calvin prêchait, ça me semble un peu fermé là, il prêchait tous les jours. Calvin prêchait tous les jours. Et vous aviez un certain nombre de genevois, de bourgeois de Genève, qui, tous les jours, allaient, c'était le soir ou le matin, de bonne heure, je ne me souviens pas, c'était en dehors de la journée de travail, c'était soit avant, soit après, et il y avait quelques centaines de gens qui venaient là, et puis qui suivaient ça. Tandis qu'aujourd'hui, évidemment, qu'est-ce qui va prêcher sur les textes de Théronome? Alors, je crois que ce qui est intéressant, moi j'étais déjà à la retraite quand le courant. J'étais pas tout à fait à la retraite. Non, j'exagère. J'étais pas encore tout à fait à la retraite. Donc, j'étais pas loin de ma retraite quand j'ai commencé à lire ces ouvrages de théologie. Alors, je dis pas que. Je dis, il nous pose une question. Parce que si nous croyons à l'inspiration de l'écriture et à l'autorité de l'écriture, nous sommes bien obligés de répondre. Alors, j'aurai quelques éléments de réponse à fournir, que je vous fournirai dans mes prochains cours. Hein, c'est pour ça que j'avance pas plus aujourd'hui. Alors, je remercie Pierre Améras, il a entamé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole?
À votre avis, à l'heure actuelle, quels sont les principaux courants, disons, antinomistes au sein de la chrétienté protestante, catholique romaine, orthodoxe orientale? Et quelles sont les causes? Pour quelles raisons ces tendances se manifestent-elles?
Vous voulez dire, je voudrais préciser, que vous précisiez bien votre question, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des courants antinomistes?
Il y a des tendances antinomistes, de toute manière.
Le grand bonhomme en France, c'est le professeur de Montpellier, Anselmi, qui, lui, est très catégorique. Il met ses cartes sur la table. Il le dit lui-même. Et alors, malheureusement, je crois qu'Anselmi vient renforcer un courant latin. Pour beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, si on leur demande, au fond, qu'est-ce que la loi, ils diront, il n'y a qu'une loi, il n'y a qu'un commandement, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Voilà. Pour eux, il n'y a que ça. Et ils ne se rendent pas compte que il y a déjà le décalogue. Il y a un théologien américain, Barnhouse, qui avait déclaré il y a une trentaine d'années qu'il était déplorable pour les réformateurs et pour ceux qui les ont suivis d'avoir conservé dans les catéchismes le décalogue. Et alors il a légué, justement pour lui, il avait placé son ouvrage, dont je ne me rappelle plus le titre, sous la phrase « Nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce ». Et alors il allait jusqu'au bout, il disait, il envoyait promener le décalogue. Et il dit, c'est une grande misère que les réformateurs aient gardé le décalogue. Non, on a gardé le décalogue d'une manière très nette. Vous avez des temples. Je prends un exemple dans la région, parce que ça m'avait frappé. C'est le temple de Lourmarin. Je ne sais pas si vous êtes allé visiter Lourmarin. Il faut voir Lourmarin. Hein. C'est sensationnel, Lourmarin. Et comme village, comme... Et alors, le temple de Lourmarin, qui est d'ailleurs situé en bas du château, quand on rentre dans le temple, on voit d'un côté la confession de foi, et de l'autre côté, il y a le décalogue. Et c'est vrai que dans pas mal, je me souviens avoir vu dans d'autres temples le décalogue. Et en tout cas, on lisait dans ma jeunesse, par exemple, avant la confession des péchés, on lisait presque toujours le décalogue. Ça faisait partie de la liturgie. Alors, on le résumait. Je vais en résumer. On disait pas « Honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » On disait simplement « Honore ton père et ta mère. » Vous voyez ? Autrement dit, on donnait l'essentiel de chaque commandement, mais pas tout le détail. Mais Barnhouse, ce théologien américain dont je vous parle, lui, considérait que c'était une profonde erreur d'avoir gardé le décalogue. Alors, si vous envoyez promener le décalogue, toutes les lois de l'Ancien Testament, et puis vous allez vous trouver embarrassé quand même, parce qu'on gardera peut-être alors des lois de l'Ancien Testament, celles qui sont reprises ou qui sont citées dans le Nouveau Testament. Oui, alors, ça... alors vous avez donc en Saldi, en France, qui est quand même, je crois que c'est le plus antinomiste des théologiens. Et là c'est très curieux parce que André Gounel, qui est professeur à Montpellier, est extrêmement respectueux du décalogue. Et André Gounel, vous le savez peut-être, c'est un théologien qui se déclare lui-même tout à fait libéral et tout ça. C'est bien que curieusement, vous avez des libéraux, qui gardent en tout cas le décalogue et qui par exemple rejetteraient tout à fait le point de vue de Barnhouse que c'est une erreur d'avoir conservé le décalogue. André Gounel le conservait. Donc vous voyez, vous avez une variété très grande. Mais les théonomistes évidemment sont à l'heure actuelle des gens qui travaillent beaucoup. Je vais vous citer un exemple. Il y a un livre qui a paru, je crois que c'est en 90 ou 91, donc assez récent, qui c'est un commentaire du livre de l'Alliance, c'est-à-dire des chapitres 23 et suivants, 21 et suivants de l'Exode. Savez-vous combien de pages ce commentaire, simplement sur ces chapitres 22 et 23, ça a été... rédigé par Gary North. 1250 pages. Alors c'est un volume de 1250 pages. Tandis que vous aviez James Jordan qui avait publié un petit commentaire de ces mêmes chapitres, mais un peu plus tôt, en 1984 si je me souviens bien, et ça a seulement 180 pages. C'est pour vous dire que il y a un travail qui se fait. Et cet ouvrage de Garinov qui s'appelle Tools of Dominion, c'est-à-dire des instruments de ce qu'il appelle dominion, c'est à peu près intraduisible en français. Parce que là, c'est...
Domination.
Comment ?
C'est pas domination.
Oui, mais domination, c'est péjoratif en français. Domination, ça. Tandis que là, c'est quand Dieu dit tu domineras sur la création, etc. C'est positif, vous voyez ce que je veux dire.
Comme au sens des anciens dominions anglais.
Peut-être, c'est le mot anglais, dominion, n'est-ce pas ?
Ça va.
Oui, il gère pour le bien.
Comment ?
Il gère pour le bien.
Voilà, c'est ça. Alors je veux, si vous voulez vraiment avoir un livre typiquement théonomiste et détaillé, c'est le Tools of Dominion de Gary North qu'il faut avoir. 1250 pages. Je vous avouerai tout de suite que je n'en suis seulement pour ma part qu'à la 300e page. C'est-à-dire que j'ai simplement lu le quart, à peine le quart. Bon, je suis en train de lire petit à petit.
Quelle édition, vous savez ?
Comment ?
L'édition.
Alors, l'édition, oui, c'est le chose de North qui s'appelle. Institute of Economics, of Christian Economics. Voilà, c'est ça. C'est publié à Tyler, T-Y-L-E-R, au Texas. Voilà. Et Luther, que met tellement en avant Anselmi, est loin d'être l'antinomiste qu'on dit. Parce que Luther, vous savez d'ailleurs, on parle toujours du jeune Luther, et puis de Luther plus mûr, il y a eu plusieurs époques. La différence entre Luther et Calvin, c'est que Calvin, lui, vraiment, il a fait que développer son institution, mais c'est toujours resté très homogène, la pensée de Calvin. Je veux dire, le Calvin de 1536 et le Calvin de 1560, 1536, c'est la date de la première édition de l'institution, 1560, c'est la date de la dernière institution, et bien au fond, il n'a fait que faire grandir et développer ça, d'une façon homogène. Hein? On pourrait dire que l'œuvre de Calvin s'est développée comme un arbre. Tandis que Luther, c'est comme un champ où il cultive ça ici, il cultive ça là et tout. Je veux dire, et vous pouvez avoir dans Luther des oppositions, il ne faut pas aller jusque-là, mais une variété moins homogène de point de vue. Mais Luther n'est pas du tout l'antinomiste. Alors, on s'en dit, moi je ne suis pas un disciple de Calvin, je suis un disciple de Luther. Moi je demande à voir de près, parce que je ne crois pas que Luther soit l'antinomiste que veut voir on s'en dit. De même, par exemple, on dit que Calvin, c'est le théologien de la prédestination, etc. Le livre le plus prédestination qui est publié, La Réforme, c'est justement le traité du serf-arbitre de Luther. Et je dirais qu'un calviniste, à certains égards, serait plus modéré que Luther sur la question. Je crois que Calvin n'aurait pas dit les choses aussi poussées que Luther l'a dit. Mais il faut dire que Luther répondait à Erasme. Et c'était au fond une polémique. Alors vous savez, quand on polémique, quelquefois, on a des mots qui sont plus carrés que dans un exposé. L'institution chrétienne contient des passages polémiques, mais quand même, c'est une œuvre. On peut extraire les passages polémiques. D'ailleurs, dans l'édition qu'a fait reprise Becker Hitma, qui avait publié la Boris Fides, on a mis en italique un grand nombre de, en petits caractères, un grand nombre de passages polémiques dont, à la rigueur, on peut se passer pour l'exposé de la pensée.
Luther a écrit un petit traité contre les antinomistes, c'était assez tôt, je pense, c'est peut-être le jeune Luther.
Oui.
Mais il n'est pas revenu sur ses positions par la suite.
Non, mais je crois qu'il n'est pas vraiment antinomiste, Luther. Seulement, Luther était un passionné de... Enfin, je veux dire, Luther était un passionné de l'Évangile. Il a été, si vous voulez, pour lui, il mettait l'accent très fort sur l'Évangile, à cause même de son opposition aux indulgences, au salut par les œuvres, au mérite et tout ça. Alors, et ce qui est la loi, il en parlait bien, mais je dirais, il n'en parlait pas aussi longtemps et aussi passionnément. Oui.
Je reviens un peu sur ma question. À votre avis, quelles sont les causes ou les raisons de ce courant antinomiste dans l'Église? Qu'est-ce qui conduit à cela? Est-ce que c'est dispensationalisme, différents critères?
Oui, c'est difficile de répondre à votre question. C'est difficile parce que je crois qu'il y a des motifs très différents et parfois même opposés qui ont pu jouer. Je crois que, si vous voulez, il y a des tas de choses. Il y a un certain anti-sémitisme qui a pu jouer pour certains. dans la mesure, si vous voulez, où on a identifié l'Ancien Testament et le judaïsme. Or, on pourrait dire, un peu paradoxalement, que l'Ancien Testament, bien entendu, est anti-judaïste, dans la mesure où Paul emploie une expression là. Il dit, les juifs, pour le moment, il y a un voile qui les empêche de lire l'Ancien Testament tel qu'il est. Et ils lisent l'Ancien Testament, mais à travers un voile. D'ailleurs, on peut dire que le Talmud, c'est-à-dire l'inscription de toutes les traditions rabbiniques, hein, c'est énorme le Talmud, je ne sais pas si beaucoup de gens ont lu le Talmud, on a pu lire des extraits, hein, mais c'est une bibliothèque le Talmud. Eh bien, au fond, le Talmud reprend le point de vue des pharisiens. On peut dire que les pharisiens étaient les premiers talmudistes, au fond. D'ailleurs, il y avait déjà un commencement de tradition auquel s'est attaqué Jésus. Hein, vous avez déformé la parole de Dieu, c'est-à-dire, vous avez déformé les écrits de Moïse, des prophètes, hein, là, vous avez déformé par vos traditions. Et finalement, alors dans le livre, ça c'est un truc que j'ai lu, oui, j'ai lu plus du cas, parce qu'il y a des appendices dans le livre de Gary North sur Tombs of Dominion, hein, et il y a un très long chapitre d'au moins une centaine de pages sur Maïmonide. Et Maïmonide, vous savez, c'est le grand auteur juif du Moyen-Âge. Et il montre au fond que c'est très intéressant parce que justement il montre comment la tradition pharisienne et talmudique au fond est à l'opposé de ce que dit l'Ancien Testament. Alors c'est pour ça que les prophètes ont déjà attaqué un certain judaïsme. Jésus a carrément attaqué un certain judaïsme. Mais quand les prophètes et les Jésus ont attaqué le judaïsme, c'est au nom de la Bible juive. Au fond, Jésus a dit, vous avez déformé ce que dit l'Écriture par vos traditions. Alors, vous ne lisez, alors, si on reprend l'histoire du voile, quand les rabbins lisent l'Ancien Testament, il y a un voile qui les empêche de voir le texte tel qu'il est. Et je suis frappé de voir, parce que j'essaie vraiment depuis très longtemps, depuis au moins, oui, depuis la guerre, donc vous voyez, depuis 1940, j'essaie de, à cause du drame des persécutions juives, de lire un peu et d'écouter un peu ce que disent les juifs. Or, moi, ce qui me frappe, c'est que justement, la plupart des commentaires juifs qui ont paru sur l'Ancien Testament font passer le Talmud avant la Bible. Vous voyez, ils vous disent, voilà, il est écrit dans la Bible ceci, voilà ce que Rabbi un tel en pense, voilà ce que Rabbi un tel en pense, etc. Et finalement, vous êtes déporté. Il n'y a que deux auteurs juifs que je connais un peu et qui n'ont jamais fait cela. C'est d'une part André Néer, qui était professeur à l'université de Strasbourg, et je crois que Pierre Berthoud se sert pas mal de son histoire d'Israël. Hein. Alors vous avez Néer, qui ne fait jamais ça, et un autre qui ne fait jamais ça non plus, c'est Chouraki, celui qui a fait une traduction de la Bible. Il est lui-même à la fois tout à fait français de culture et tout à fait israélien de culture. Il lit l'hébreu comme le français et tout ça. Et c'est très intéressant, sa traduction de la Bible, surtout sa traduction de l'Ancien Testament, mais même sa traduction du Nouveau Testament est intéressante, parce qu'il a essayé, de traduire le grec du Nouveau Testament comme s'il voyait en filigrane un texte en hébreu, vous voyez. Alors c'est intéressant. Ben alors, Chouraki et Néer sont deux des juifs que j'ai pu lire qui ne sont pas pénétrés. Mais je suis frappé de voir, là, encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, à propos de ce que j'ai entendu avant-hier à l'émission juive, je suis frappé de voir combien, pour les juifs, c'est le Talmud qui fait autorité. Et comme dans le Talmud, vous trouvez à peu près tout et son contraire, l'autorité du texte biblique est effacée. Alors, c'est ça qui me fait comprendre l'opposition de Jésus et l'opposition des apôtres au judaïsme. Et je ne comprends pas Paul. C'est voilà un homme qui était formé par le rabbinisme, qui était certainement nourri par le Talmud et tout ça. Et il a fallu vraiment un miracle extraordinaire, comme celui sur le chemin de Damas, pour qu'il devienne chrétien. C'est incroyable, Saint Paul. Pour moi, si on me demandait, je ne crois pas qu'il y ait de preuve de l'existence de Dieu, mais à supposer qu'il y ait des preuves de l'existence de Dieu, une des preuves de l'existence de Dieu, c'est Saint Paul. Parce que faire d'un juif nourri de rabbinisme un chrétien, il y en a un autre qui était intéressant. Si, il y a un autre bonhomme qui est très intéressant. Son nom m'échappe. Mais je vais le retrouver. Vous savez, j'ai des trous de mémoire là, maintenant à cause de mon âge. Mais ça va. C'est un fils de rabbin lui-même, qui est devenu chrétien et qui a publié pendant la dernière guerre un certain nombre d'ouvrages. Je tâcherai de vous retrouver son nom. Parce que si je le cherche, je ne le trouverai pas. Si je ne le cherche pas, il me reviendra. Ouais. Alors non, il y a plus que deux. Il y a au moins trois juifs qui ont vraiment écouté l'Ancien Testament sans y mêler les traditions du Talmud. Néer, Chouraki, et puis ce troisième dont je ne retrouve pas le nom. Allez, on peut peut-être encore un petit quart d'heure, pas tout à fait, mais presque. Si, on a un quart d'heure, avant midi. Hein, c'est ça, il est moins quart d'heure. Alors, qu'est-ce que...
Il y a un cantique que j'ai entendu, la session de l'implanté, qui dit « La loi fait place à la grâce, et Moïse à Jésus-Christ. Ah, » oui, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que c'est vraiment un slogan anti-moïste.
Ah oui, ben voilà. Ben voilà, ça c'est typique.
Et comment faire pour l'expurger?
C'est très difficile. Oui, je me souviens, en effet, de ce passage du cantique.
Parce que
la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ.
À force de répéter un cantique comme ça, c'est une vérité qui s'imprègne dans la pensée des gens. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui... très mauvaise, bon d'abord une mécompréhension, puis l'évolution de la société a fait que avec une espèce d'humanisme ambiant, mais est-ce quand même que le monde réformé n'a pas très très mal enseigné ce qu'était vraiment la loi? Que pendant un moment, ils ont prôné la loi pour dire avant tout que c'était la loi, sans expliquer qu'il fallait effectivement accepter le décalogue pour être final à la ligne, parce que c'était la Bible, et puis voilà, et puis les gens devaient l'accepter ou le refuser, et puis sans le comprendre.
C'est vrai d'ailleurs que même dans les dogmatiques très récentes, comme ça, c'est souvent que la section sur la loi est très petite ou carrément absente. Exactement comme les chapitres d'introduction sur l'écriture, sur son statut au tout début, sont présupposés très rapidement dès le départ, et puis après on passe à la suite. Et ben, les sections sur la loi sont très petites dans des dogmatiques anglo-saxonnes assez modernes. Il est très peu parlé de la loi, et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut en faire?
Voilà, c'est ça, mais comment la... et pourquoi on ne peut la comprendre comme ça?
Oui. Il y a un problème aussi, je pense, souvent dans l'énoncé des 10 commandements, justement, parce qu'on est, pour que ce ne soit pas trop long, c'est seulement la partie commandement qui est énoncée. Or, dans ces commandements, il y a des promesses,
il y a des explications.
Et je pense qu'il y a un déplacement d'accent.
D'ailleurs, on devrait garder le mot en hébreu, n'est-ce pas? Il est question des 10 paroles. Et je crois qu'il vaut mieux dire les 10 paroles, ou le décalogue, puisque le décalogue veut dire 10 paroles, que les 10 commandements. Parce que vous avez raison, En fait, dans ce texte, il y a bien sûr il y a des commandements, mais il n'y a pas que des commandements. Il y a des promesses aussi, c'est vrai. Et il y a aussi des menaces. Je pense que ça fait partie de c'est un texte alliantiel avec qui comporte justement à la fois. Et puis, si vous voulez, fondamentalement, il ne faut pas dissocier loi et évangile. En un sens, on peut dire que toute la Bible, de la première à la dernière page, est évangile et en même temps loi. Parce que finalement, on pense toujours, qui dit loi, on pense à commandement. Le mot Torah, d'ailleurs, c'est très difficile au point de vue même de ses racines, au point de vue étymologique, à bien voir ce qu'il veut dire. Une traduction qui me plaît assez, c'est directive. Parce que, au fond, c'est ça. Ce sont des directives, mais ça ne veut pas dire que... ce ne sont pas des commandements, mais je veux dire, ce sont des directives. Et c'est des directives qui ne peuvent être comprises que dans le contexte de l'Alliance, et donc dans le contexte aussi de l'Évangile, des promesses de Dieu. Voilà. Alors, au fond, on peut dire que le judaïsme, l'erreur du judaïsme, c'est d'avoir tiré la loi, a fait abstraction de la loi, parce que c'est ça l'abstraction, c'est tirer, en laissant tomber l'Évangile. Et tandis que ça va toujours ensemble dans la Bible. Si on reprend ce que j'ai appelé les nœuds, Adam, Noé, Abraham, Moïse, David et tout, on s'aperçoit que toujours c'est un entrelacement de promesses et d'ordres. Et que c'est à partir du moment où vous tirez la loi hors de son contexte, qu'est l'Évangile, vous n'êtes plus... Mais c'est la même chose pour l'Évangile. Ça ne veut plus rien dire, l'Évangile, si vous laissez de côté la loi. Parce que justement, on ne peut confondre la bonne nouvelle que comme la bonne nouvelle de la substitution de Jésus-Christ à notre place. Il a été fait malédiction pour nous et à notre place. Il s'est chargé de nos péchés et il a été maudit. À notre place pour que la justice de Dieu l'atteigne lui au lieu de nous atteindre nous. Et alors, ça va ensemble. C'est pour ça que je dis, on a affaire là vraiment à un rapport de deux mots extrêmement étroits. Évangile, loi, loi, évangile. Alors si on parle de l'évangile en laissant tomber la loi, ou si on parle de loi en laissant tomber l'évangile, on n'est plus dans cette réalité alliantielle qui conjoint étroitement loi et évangile. Je crois que... Et puis alors, moi j'ai vu des choses atroces. Je me rappelle que j'avais trouvé, autrefois j'avais vu, sur les quais de Paris, chez un bouquiniste, c'était un livre du célèbre pamphlétaire antisémite Édouard Drumont. C'était affreux. On voyait un chevalier croisé. Il était monté sur un cheval, il tenait la lance, il avait une grande croix sur la poitrine, c'était manifestement un croisé,